OK, on va commencer notre 14e leçon sur la sanctification. Le titre du sermon de ce soir, c'est « Le Seigneur est le commandant des vagues dans nos vies ». Vous allez voir par le passage que dans le fond, ce qu'on appelle des vagues, c'est si on prend le passage où il était sur le lac, il y a eu une tempête. Alors le Seigneur, c'est lui qui est le commandant des vagues qui arrivent dans nos vies. Alors on va lire Marc 4. Et versets 37 à 40. Alors s'éleva un grand coup de vent. Et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons? » Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent. Et il dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Alors, on croit que ça serait désirable pour les chrétiens d'étudier davantage les quatre évangiles, plus qu'on le fait actuellement, pour une simple et bonne raison, c'est que, dans le fond, on sait que toute la Bible est profitable pour tous les chrétiens, bien entendu, mais les évangiles ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils nous présentent la personne de Christ et son caractère et ses actions durant toute sa vie. Alors, c'est la raison pour laquelle plus on va étudier les évangiles, plus on va connaître Christ et plus on va en profiter. Alors, on connaît par l'étude des évangiles, on va connaître les manières de Christ, ses sentiments, sa sagesse, sa grâce, sa patience, son amour et sa puissance, bien entendu. Parce qu'on lit du passage qu'il y avait une grosse tempête, il se lève puis il dit au vent, « Tais-toi, il commande à la mer et la mer s'apaise à quelque part. » Si ça ne nous donne pas une petite idée de la puissance de Christ, qu'est-ce que ça nous prend? Alors, bien entendu, les brebis ne devraient-elles pas mieux connaître leur berger? Les malades être plus familiers avec leur médecin? L'épouse être plus intime avec leur époux? Et les pécheurs avec leur sauveur? Et où on va trouver tout cela? Dans les évangiles. Bien sûr, les épîtres, c'est important aussi parce que c'est des explications, bien entendu, des évangiles elles-mêmes. Mais c'est dans les évangiles où on nous parle directement de Jésus, où on le voit agir dans tout ce qu'il a fait sur la terre quand il était présent parmi nous. Alors, si on étudie ce passage-là, on peut dire que ça nous enseigne, ça nous donne des leçons. Parce que le passage qu'on vient de regarder nous donne une leçon sur laquelle on peut méditer. Et une des leçons, c'est que la première leçon, je dirais que suivre Christ n'éliminera pas les chagrins et les troubles dans nos vies. On parle de vagues, quand je dis tout à l'heure, le Seigneur est le commandant des vagues, on peut prendre les vagues comme étant les problèmes. Le Seigneur permet qu'on traverse des périodes très calmes. Moi, dans ma vie actuellement, je pourrais dire que je suis sur un lac calme, mais ça n'a pas toujours été de même. J'ai eu des périodes dans ma vie où il y avait de la houle, comme on dit. Et où que tu as peur, et où que tu vis toutes sortes d'émotions fortes. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent en étudiant un passage comme celui-là? On voit que les disciples sont dans la barque, et on voit que ce n'est pas à cause qu'ils sont des disciples de Christ, puis ce n'est pas à cause que Christ est présent avec eux dans la barque que sont dispensés des troubles de la vie. Alors, je pense que ça a une leçon très importante pour nous aujourd'hui. Alors, on voit ici les disciples qui vivent dans une très grande anxiété. Ils étaient, comme on dit, terrorisés parce qu'eux, ils croyaient que la tempête était violente au point où l'eau commençait à rentrer dans la chaloupe, au point où tu penses que tu vas te noyer. Je ne sais pas si ça avait déjà été dans un bateau où ça brasse vraiment et où la vague commence à monter et où tu commences à craindre. Mais nous, bien souvent, ce qu'on a connu, moi, je l'ai connu une fois dans un bateau, je commençais à avoir un peu peur, là, mais je suis certain que ça n'avait rien comparable avec la situation qui est décrite dans le passage ici. c'était la terreur. Le vent montait, l'eau les envahissait. Le Seigneur, lui, était couché sur un oreiller, puis il dormait bien tranquille. Puis eux, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour crever. Alors, bien sûr, ça nous donne une leçon que quand il nous arrive des choses, le Seigneur, comme là dans notre épisode, il dort, mais on sait que le Seigneur ne dort jamais vraiment. Alors, ça nous donne une grande leçon que quand on a peur, quand on est dans la tempête, de quelque sorte que ce soit, que ce soit une tempête causée par des maux physiques ou une tempête émotive, ça nous arrive-tu des fois d'avoir des petites tempêtes émotives dans nos vies? Les émotions nous charrissent toutes les bords. Alors, ils sont dans la détresse et ils sont affaiblis au point que leur foi défaille. Parce que là, le Seigneur leur fait des reproches en voulant dire, n'avez-vous point de foi? En voulant dire, si vous vous rappeliez tout ce que j'ai fait pour vous pendant qu'on était sur la terre, toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses que vous m'avez vu faire, vous devriez être plein de foi. Puis même si je dormais, vous devriez quand même avoir confiance en moi et même pas avoir eu besoin de le réveiller. Alors, on voit qu'on est faible et il ne faut pas se penser plus fin que les disciples parce qu'on est exactement pareil. Alors, ils s'attendaient probablement, eux autres, à un voyage doux, à une température idéale et à être libérés des troubles, des souffrances et des soucis. Ça ressemble-tu un petit peu à nous autres, ça? On est des chrétiens, on aimerait bien ça, traverser une vie sans problème. On se dit, bien, le Seigneur est au contrôle. S'il voulait, il pourrait tout nous enlever ça. Pourquoi il permet que ça arrive? Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles notre foi est fortifiée par les vagues qui arrivent dans nos vies. Alors, bien sûr, le Seigneur veut sans doute nous enseigner par ce passage-là que tous les croyants connaîtront leur part de maladie, de douleur, de chagrin, de larmes, de perte, de croix, de deuil, de départ, de séparation, de vexation et de désappointement. Est-ce que vous avez assez d'années de vie chrétienne pour vous identifier dans chacune de ces choses-là? Oui, on a tous vécu des choses de ce style-là. Et ça faisait partie du plan de Dieu pour nous, parce qu'il y a des choses à nous montrer à travers de tout cela. Alors, comment le travail de sanctification pourrait-il se faire si nous n'avions pas d'épreuves? Parce qu'on le sait, Romains 8, 28 nous dit « Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'ai bien aimé que tout à l'heure, je vous parlais du monsieur avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai envoyé un message aujourd'hui qui me dit « Je souffre, mais je suis conscient que le Seigneur se sert de cet événement-là qui dure, dans son cas, plus qu'un an, un an et demi, deux ans. » Il est conscient que le Seigneur est en train de le modeler dans sa sanctification par ce moyen-là. On n'est pas tout rendu là, des fois. Hein? Des fois, quand ça arrive, qu'on a des épreuves, on se met à ruer des brancards, puis on a de la misère à accepter que le fait que ça vient de Dieu, le fait que c'est le Seigneur qui est le commandant des vagues qui se produisent dans nos vies. Alors, les vents peuvent, bien entendu, nous effrayer, les eaux nous menacer, mais ne craignons pas. Le psaume 107, verset 7, dit « Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. » Je me souviens d'une manière d'avoir entendu un sermon de Charles Spurgeon qui illustrait la vie chrétienne, il la comparait à un voyage sur la mer. Et j'aimais bien sa dernière illustration, puisqu'il dit, quand on a traversé la mer, il dit des fois, on voit le bateau arriver au port, le mât cassé, les voiles déchirées, et avec, il commence à avoir des problèmes de choses. Autrement dit, le bateau, il a goûté. Mais t'es sûr une chose, comme ça dit, les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. On peut être brassé, on peut casser notre mât, on peut déchirer des voiles, on peut avoir beaucoup d'eau qui va rentrer dans le... Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. On a un chemin, puis il va nous conduire jusqu'au bout. Première leçon, donc, Suivre Christ n'éliminera pas les chagrins et les troubles dans nos vies. Deuxième leçon par rapport à ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ vraiment et vraiment et réellement homme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le sait, on l'a lu dans les Écritures, mais des fois, c'est bon de se rappeler que Jésus-Christ était, oui, Dieu, incarné dans une chair d'homme, mais qu'il était pleinement Dieu autant que pleinement homme. Alors, il sait exactement les choses qu'un être humain traverse. Alors, le passage nous apprend que Jésus était à la poupe et il dormait sur un oreiller. N'oublions pas une chose, c'est que le Seigneur travaillait très fort durant son séjour sur la terre. Il était sans doute épuisé et avait besoin de dormir après avoir fait beaucoup de bien aux âmes et prêché en plein air aux multitudes. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point les journées du Seigneur étaient remplies, du matin au soir. Puis même plusieurs fois, le Seigneur passait des nuits entières à prier. Ça, c'est une chose que j'ai eu connaissance que dans certaines églises, je l'ai déjà fait personnellement, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, une nuit de prière. Il y a beaucoup d'églises qui le font, beaucoup d'individus aussi qui le font. Je pense que quand on le fait, on imite le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même a pratiqué cela, des nuits de prière. Alors, il était, bien sûr, sans doute épuisé après avoir tout le travail qu'il peut avoir fait aux hommes. Alors Jésus était pleinement homme et il a pris part à la chair et au sang. Et il a été fait homme comme nous, à l'exception du péché, bien entendu. Il est né d'une femme. Il a connu la croissance corporelle. De bébé, il est venu un enfant. D'enfant, il est venu adolescent. Adolescent, il est venu adulte. Il a expérimenté la faim et la soif. Il y a des passages qui nous parlent de ça. Il a su ce que c'était la fatigue. Quand il s'assoyait au bord du puits, c'est parce qu'il était fatigué. Le repos, il sait ce que c'était le repos, il sait ce que c'est le sommeil. Comme nous, il connut la souffrance, la pauvreté, et même les Écritures nous apprennent qu'il a pleuré. Jésus pleura. Il était ému par la souffrance humaine, et plus particulièrement par la mort. Quand il voyait la mort s'installer, pour lui, ça avait un effet très fort sur son âme. Alors, celui qui a fait les cieux et la terre, dominé sur les principautés et les puissances célestes, expérimenta, comme nous, ce que c'est que de vivre dans un corps fragile comme le nôtre. Alors, bien méditer ce fait-là nous amène à un grand réconfort. Jésus fut un parfait homme comme nous. Jésus n'est pas seulement un puissant sauveur, mais aussi un sauveur sympathisant. Ne savons-nous pas que la sympathie est l'une des choses les plus douces dans ce monde submergé par le péché? Quand on souffre beaucoup, puis qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, on le sait quand c'est une oreille attentive, et on le sait quand c'est une oreille... Ils nous écoutent, on dirait qu'ils ont hâte qu'on fait... Mais quand quelqu'un t'écoute, tu souffles, là, puis tu as une chance de partager avec quelqu'un qui sympathise avec toi à ce que tu vis. N'est-ce pas que c'est une des choses les plus douces de la vie? Mais le Seigneur est le plus grand sympathisant de tous. Il n'y a aucun être humain qui sympathiera autant à nos misères, à nos difficultés, à nos souffrances que le Seigneur Jésus. Alors, c'est une grande consolation que de trouver une personne sur cette terre qui peut sympathiser à nos souffrances, à nos épreuves et à nos joies. Alors, l'authentique sympathie est meilleure que tout l'argent du monde. Quand quelqu'un est riche, puis qu'il tombe vraiment malade, mais malade sérieusement, puis qu'il sait qu'il va mourir ou quoi que ce soit, là, pensez-vous qu'une nouvelle qui va lui arriver, qui va dire « tu viens de gagner un autre million », que ça va lui faire quelques plis que ce soit, comme on dit? Non! Cette personne-là a besoin d'attention, a besoin de tendresse, a besoin d'écoute. Ce que l'écoute aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos vies, là. Moi je l'ai remarqué souvent, en tout cas, l'écoute s'est rendue une denrée rare, très rare. Alors, si c'est rare chez les hommes, c'est pas rare avec Christ, parce que lui, il nous écoute tout le temps. Puis il sympathise tout le temps, ce qui est loin d'être le cas dans la majorité des êtres humains. Alors, cette sympathie a une grande puissance pour ouvrir nos cœurs. N'est-ce pas que quand on sent que quelqu'un sympathise à nos misères, que ça rouvre nos cœurs, ça nous donne vraiment. Alors, Dieu a voulu, dans sa sagesse, que Christ sympathise réellement à nos expériences douloureuses. On lit dans Hébreux 12, au verset 3, « C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. » Considérez, ça veut dire regardez ce que le Seigneur a fait et réfléchissez. Considérez, ça que ça veut dire. Regardez, examinez et réfléchissez et méditez à tout ce que ça veut dire tout cela. Isaïe 53, verset 3. On sait que Isaïe 53, c'est une prophétie concernant le Messie à venir et le Messie souffrant. Isaïe 53, c'est un passage sur le Messie souffrant. Isaïe 53, verset 3. Et là, on parle de Christ. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, au pluriel, et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Alors le Seigneur ici, c'est quoi le mépris? Si on vit du mépris, on peut s'adresser à lui, on peut lui demander des consolations, on peut lui demander des encouragements, parce qu'il sait c'est quoi. Beaucoup plus que nous, parce que sa sensibilité n'a rien de comparé avec la nôtre. Alors Jésus connaît le cœur des hommes, les douleurs corporelles des hommes, les difficultés des hommes. Par exemple, il s'est reposé au puits de Sichar, il pleura au tombeau de Lazare, sua des grumeaux de sang à Gethsémané. On n'a aucune idée. Moi, j'ai déjà lu des textes sur ce passage-là, disant qu'un être humain qui sue des grumeaux de sang, il faut qu'il ait atteint un niveau d'angoisse d'une telle ampleur qu'aucun être humain, en général, a connu ça. Mais c'est possible que l'angoisse soit tellement puissante que ça a occasionné. Alors, savez-vous, quand on regarde Christ, est-ce qu'il connaît ça? Qu'est-ce que c'est la douleur sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou psychologique? Il a gémi de douleur. Et il a connu aussi l'angoisse au calvaire. Alors Jésus n'est pas étranger aux sensations humaines, à l'exception du péché. On va en nommer quelques-unes. Êtes-vous pauvre et dans le besoin? Jésus le fut également. Luc 9, verset 58. Mais Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Imaginez-vous, le roi de l'univers, le Dieu qu'on connaît avec tous ses attributs, nu sur cette terre, puis sur cette terre, il était pauvre. Plus pauvre que n'importe quel d'entre nous. Parce que nous, on a un lieu où poser notre tête, on a une maison, on a un logement, on a des meubles. Jésus n'avait rien durant toute sa vie terrestre. Alors, est-ce qu'il connaissait la pauvreté? Si on vit la pauvreté et qu'on trouve ça dur, mais Jésus connaissait encore bien plus que toi la pauvreté. Après ça, il a demeuré aussi dans une cité qui était méprisée. Jean 1, verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Alors, il fut estimé fils du charpentier, parce que tout le monde disait qu'il était le fils du charpentier alors qu'il était le fils de Dieu. Tout le monde pensait que c'était Joseph qui était le père. Alors, des fois, il faisait des allusions dans les questionnements qu'on lui faisait. Alors, il a prêché dans une barque empruntée. Il s'est promené sur un âne emprunté pour se rendre à Jérusalem et fut enseveli dans une tombe empruntée. Et ça, c'est notre Seigneur. Deuxième question qu'on peut se poser, donc, êtes-vous pauvre et dans le besoin? Jésus connaît ça. Êtes-vous solitaire et négligé par ceux qui devraient vous aimer? Ça nous arrive-tu des fois? Ben oui, ça nous arrive. Jésus le fut également. Il vint vers les cieux, vers les siens, et ils ne le reçurent point. Il vint pour être le Messie des brebis perdues d'Israël, et ils le rejetèrent. Les princes de ce monde ne le reconnurent point. Ceux qu'ils suivirent furent des pécheurs et des publicains. Et même ceux-ci l'abandonnèrent au moment de la crucifixion. Alors, est-ce qu'il sait ce que c'est la solitude et le fait d'être négligé par nous, par ceux qui devraient nous aimer? Troisième question qu'on peut se poser, êtes-vous incompris, mal représenté, calomnié ou persécuté? Jésus le fut également. Il fut appelé un glouton. Il fut appelé un buveur. Il fut appelé un ami des publicains. Et on se souvient qu'un publicain, à l'époque de Jésus, c'était un collecteur de taxes pour les Romains. C'était un juif qui collectait des taxes pour les Romains et c'était la race la plus méprisée qu'on ne pouvait pas avoir en Israël. Et on disait de Jésus un ami des publicains. Un Samaritain, un fou, un démon. Alors on calomnia son caractère, de fausses accusations furent présentées contre lui, une sentence injuste fut prononcée contre lui malgré sa parfaite innocence et son comportement irrépréhensible. Il fut condamné comme un malfaiteur et mourut de la mort la plus cruelle et la plus humiliante possible. Alors est-ce qu'il connaît ça être incompris? Est-ce qu'il connaît ça être mal représenté? Est-ce qu'il connaît ça être calomnié? Est-ce qu'il connaît ça être persécuté? Bien sûr, beaucoup plus que tout chacun d'entre nous ensemble. Autre chose, est-ce que Satan vous tente et offre des suggestions horribles à votre esprit? Jésus le fut également. Satan suggéra à Jésus de manquer de confiance à la providence de son Père. On lit dans Matthieu, chapitre 4, verset 3. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Aussi, Satan proposa à Jésus de s'exposer au danger inutilement. Matthieu, chapitre 4, verset 6. Et il lui dit, c'est Satan, là, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Satan le suggérait aussi de l'adorer en échange de tous les royaumes de la terre, Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, si te prosternant tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le servira lui seul. » Cinquième chose, êtes-vous dans une grande agonie et conflit dans votre esprit? Jésus le fut également. Qui peut mesurer l'étendue des souffrances d'esprit de Jésus dans le jardin de Gethsémané? Qui peut avoir une idée des souffrances de l'âme de Jésus lorsqu'il s'écria dans Matthieu 27, 46? Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, « Élie, Élie, là-bas sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, c'était un passage qu'on aurait beaucoup avantage à étudier. C'est un passage clé des Écritures. Le Père, l'abandon du Père, c'est le moment où le Père lui faisait subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre en l'abandonnant, comme nous, on aurait dû être abandonnés si on aurait été en enfer. Alors, Jésus est le refuge idéal des âmes en souffrance. Ne sombrons pas dans la folie de croire que nous trouverons plus de sympathie, par exemple, pour certains catholiques, chez la Vierge Marie, chez les saints, chez les anges, beaucoup de personnes. Moi, je me souviens, quelqu'un m'avait déjà dit, « Vous autres, les protestants, vous êtes orgueilleux! » Parce qu'elle, elle disait qu'il fallait prier à la Sainte Vierge, ou aux anges, ou aux saints, ou à grand-papa qui est mort, toutes ces affaires-là. Et elle disait que prier Jésus, et de ne pas passer par un intermédiaire, c'est-à-dire de l'orgueil. Il y a un peu beaucoup de folie dans cette expression-là. Alors, où les personnes décédées que nous avons aimées, qui est une doctrine malheureusement défendue par le catholicisme romain. Alors, la leçon de ce soir, je savais qu'il y aurait deux leçons. J'avais la leçon 14 et 15 dans la même leçon. Alors, on va couper ça là. Ça va nous donner la moitié, puis je donnerai l'autre moitié de la semaine prochaine, qui va continuer sur le même thème de « Le Seigneur est le commandant des vagues dans nos vies ». Alors, on va clore...